Bonsoir à tous, donc merci d'être là ce soir pour cette soirée autour d'Alzheimer. Avant que la discussion ne commence avec nos invités, je voulais juste donner quelques minutes la parole à Alain Ansart, qui est donc directeur du centre hospitalier d'Avallon, juste pour qu'il nous resitue un peu le contexte de ce film que l'on vient de voir. Voilà, merci d'être là.
Merci, oui, donc quelques paroles d'introduction. Après un film comme celui-ci, c'est pas forcément très facile de prendre la parole et d'essayer de capter l'attention. Simplement sur l'historique un petit peu de la collaboration avec Pascal Caparis et du travail qui a été fait. On s'est rencontrés avec Pascal Caparis dans le cadre d'un jury de concours d'architectes pour des travaux qu'on lançait sur l'hôpital d'Avallon. On refaisait un bâtiment d'EHPAD. À l'occasion de cette rencontre, l'idée d'avoir un travail qui soit fait, un travail vidéo, par rapport aux résidents atteints de maladie d'Alzheimer notamment, est venue en discussion. Et on s'est revu, on a essayé de mettre au point quelque chose. Et donc il y a eu d'abord une première session de vidéo avec certains des patients qui sont là, qu'on voit, avec des membres du personnel, pour filmer, je me souviens bien, leur réaction par rapport à certains objets. Bon. Puis, il y a eu une évolution. On a imaginé une œuvre installée dans l'établissement. Et avec le docteur Jean-Louis Bollin, qui exerçait à l'époque à l'hôpital d'Avallon, on imaginait avec Pascal, je me souviens de discussions qu'on avait eues, sur faire entrer la vie de l'extérieur par la vidéo à l'intérieur d'une pièce spécifique dans le bâtiment. Ça restait une idée, c'était des caméras qui pouvaient être installées à deux ou trois endroits de l'extérieur et qui permettent à des personnes, à des heures précises, peut-être avec un cérémonial, enfin bon, il y avait eu un début de réflexion sur le sujet, ça a été un petit peu abandonné depuis, et simplement je refais cet historique pour dire combien ce projet est encore vivant aujourd'hui. Ensuite, les images recueillies ont fait penser à la possibilité d'en faire un livre. Et faire un livre, c'est quand même pour un être humain quelque chose d'important. Et on s'est dit, oui, ça vaut le coup, on va faire un livre. Donc ce livre, il existe. Il est issu en grande partie d'images tirées de ce film. Et c'est un livre qui, dans sa forme, a également un aspect très, très particulier et artistique. Une vidéo, donc ce DVD. Une deuxième vidéo est en cours de travail et un extrait sera projeté tout à l'heure. Et l'idée d'une installation spécifique au sein du bâtiment reste toujours d'actualité. Une pièce est réservée dans ce bâtiment pour installer un projecteur vidéo, un grand écran plasma LCD. Bon, on n'a pas encore l'aspect matériel, n'est pas encore défini. Et pour diffuser certaines vidéos qui auront été faites par Pascal. Alors ça se fait dans le cadre d'une possibilité qui existe dans les établissements publics, lorsqu'on fait des travaux, on peut disposer de 1% au titre d'œuvres artistiques. Alors souvent, quand on fait des travaux, on a des crédits assez insuffisants. Donc le 1% artistique, on va l'utiliser pour la signalisation, c'est le cas le plus classique, où on va mettre des petits cadres, des belles reproductions de tableaux du 19e siècle dans tous les couloirs. On a choisi une autre voie. Et cette autre voie, elle a été choisie finalement parce qu'on s'est rencontrés lors d'un concours. Voilà. Et qu'on a osé échanger sur le sujet. Alors simplement, et pour conclure pour ce qui me concerne, pour un directeur d'hôpital, pouvoir entrer dans une démarche artistique, ça fait du bien de sortir des budgets, de sortir de l'organisation du déménagement. J'étais ce matin en réunion pour peaufiner le déménagement des résidents qui aura lieu la semaine prochaine. Donc le bâtiment est fini de construire et les résidents vont l'intégrer. Donc c'est une boucle qui se boucle là. Mais on a, où j'ai dans mon métier, des choses très matérielles à gérer, très terre à terre. Et puis prendre un petit peu d'oxygène, prendre un peu une palette artistique dans le cadre de mon métier. Je veux dire que ça a été un vrai plaisir. Voilà, merci. Et puis je pense que la table ronde va pouvoir s'installer.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette table ronde organisée par la bibliothèque publique d'information autour de, du titre Alzheimer, les mots et les images. Les quatre personnes qui ont été invitées par Florence Verdeil, qui sont présentes autour de moi, sont quatre artistes qui ont... qui ont tenté au moyen de médiums, de supports différents, d'aborder, d'approcher, de montrer une vérité touchant à la maladie d'Alzheimer ou aux personnes qui en ont été touchées, comme dit le sous-titre du film que nous venons de voir. Médiums différents. Puisque nous avons, je vais commencer par Thierry Ardouin, un photographe qui a travaillé, alors là aussi dans le cadre d'un service gériatrique à l'hôpital de Quintin en Bretagne, mais ça n'était pas une commande, plutôt une initiative personnelle. Pascal Caparis, dont nous venons de voir Parce que je ne rêve pas. Olivia Rosenthal qui elle a consacré un récit qui est très beau qui s'appelle On n'est pas là pour disparaître et enfin peut-être la seule artiste multimédia Raphaël Sodinos qui est aussi écrivain puisque elle est l'auteur du texte de la pièce que nous verrons tout à l'heure Paroles d'Alzheimer et elle est également comédienne et metteur en scène de ce texte, c'est-à-dire qu'elle l'utilise également comme médium, son propre corps et l'espace de la mise en scène. Voilà, j'insiste sur les médiums, ce qui est peut-être une manière commode de découpage, mais parce que j'aimerais au fond que cette table ronde tourne autour de ce que pour un artiste ou un écrivain, vouloir dire quelque chose ou montrer quelque chose de la maladie d'Alzheimer peut changer au médium qu'il emploie. Voilà. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement marquant dans le travail de Pascal Caparis, mais aussi dans le travail d'Olivia Rosenthal. Je connais malheureusement moins le travail de Thierry Ardouin, que je n'ai pu voir que sur le site internet de Tendance Floue, et moins également celui de... je n'en ai lu que quelques commentaires sur internet. Voilà, mais avant de rentrer dans cette question proprement dite, que vous êtes d'ailleurs libre d'accepter ou de refuser, je proposerais que, si ça vous dit, de... faire un tour de table autour du film que nous venons de voir et de dire quelle a été votre réaction ou si quelque chose vous a semblé répondre dans le film que vous avez vu à votre propre travail ou à ce qui a été votre propre démarche.
Bonjour à tous. Je me permets de commencer parce que j'aime beaucoup la question parce que je me suis dit ça tout du long. D'abord, bravo à vous, Pascal. J'ai été très touchée, moi, parce qu'il se trouve que j'ai un peu fait le travail inverse, c'est-à-dire que je suis celle qui interprète le rôle de Paul, le malade d'Alzheimer, et le rôle d'Anne, sa femme. C'est-à-dire que je suis habillée en noir comme ça, c'est-à-dire que je me suis imaginée comme une espèce de toile la plus neutre possible pour qu'on puisse projeter par l'imaginaire, en fonction du texte et des chansons, puisqu'en plus de tout, je chante, l'histoire de Paul et Anne. Et du coup, ça me bouleverse forcément magnifiquement de voir tout d'un coup sur l'écran le visage de Paul et le visage d'Anne, pour moi en tout cas. Voilà. Donc ça, déjà, ça m'a touchée. Et puis, l'impalpable des choses m'a touchée aussi, parce que je trouve qu'il y a une part d'impalpable magnifique dans la maladie d'Alzheimer, dans le rapport avec le mal d'Alzheimer, tout ça. Et puis, c'est juste, c'est des coïncidences, mais dans les quelques paroles qu'on entend là, Il y en a beaucoup qui sont des paroles qui sont prises à leur compte par Paul et Anne Revel, les personnages de mon spectacle, après, en particulier l'histoire de partir au bord de la mer et tout ça. Donc ça m'a fait, c'est incroyable, ouais, comme une espèce de coïncidence, comme une correspondance, parce que je ne crois pas que Florence Verdeil ait vu le spectacle non plus, donc c'est un hasard, je crois, donc c'est joli, voilà. Voilà ce que ça m'a fait, et beaucoup d'émotions.
Merci.
Bonsoir à tous. Il y a beaucoup de similitudes en fait avec mon approche. Vous verrez les images tout à l'heure. Raphaël s'est intéressé beaucoup au regard, et moi-même, il y a une grande similitude avec mon travail, puisque c'était pour moi la caractéristique principale, comment rendre compte de cette maladie. Mon boulot, moi photographe, c'est comment on rend compte des choses, de ce qui nous entoure. Et en m'intéressant au regard des malades, j'ai trouvé qu'il y avait pour le coup, on caractérisait vraiment la maladie, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans le regard. Ils sont présents. Des fois, ils sont pas là, et c'est très décontenançant pour quelqu'un d'image comme moi de pas pouvoir capter le regard de quelqu'un quand je fais un portrait. Ça m'a beaucoup déstabilisé, et je me suis dit, mais voilà, c'est là où il y a quelque chose à comment rendre compte de cette maladie. Ça passe forcément par le regard.
Bonsoir à tous. Pour ce qui concerne le film, c'est vrai que j'étais assez impressionnée par les images. Alors qui correspondent, alors là pour le coup pas du tout à l'univers qui était le mien dans ce que j'ai essayé de faire dans un livre. Et donc ce qui m'a beaucoup frappé, enfin je dirais il y a deux choses. Il y a d'une part, je trouve que ça pose, mais ça c'est toujours comme ça quand on voit un film, ça pose vraiment une question qui est la question du point de vue, c'est-à-dire vraiment à quel endroit on se met pour regarder quelqu'un. Par exemple là c'est vrai que c'est très près. Donc c'est quand même assez pénible à regarder. Là, je vous l'avais pas dit, mais moi je trouve que c'est assez pénible à regarder. C'est un travail là-dessus sur le fait d'être à quelques centimètres. Donc voilà, ça interroge sur l'endroit où on se met pour regarder quelqu'un, et surtout l'endroit où on se met pour regarder quelqu'un qui donc est atteint de cette maladie et qui, alors pour moi qui suis écrivain, le problème que ça pose, c'est que effectivement. Du coup, la peau de la personne, le corps, c'est une sorte d'obstacle parce qu'il n'y a pas beaucoup de paroles qui sortent de ce corps. Et donc, y a un effet de manque, en fait, moi, je trouve, quand on regarde le film, qui est assez fort. Et donc, moi, c'est vrai que le travail que j'ai fait, du coup, c'est intéressant parce que ça se met en regard avec ce que vous avez fait. C'est-à-dire que moi, je crois que je me suis mis à un endroit très, 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 très différent, et peut-être un peu loin, ou alors assez loin, c'est-à-dire de sorte que je peux regarder les gens avec, en m'accordant une forme de liberté, en ayant une distance qui me permette de laisser de l'espace, ou alors en étant carrément dedans, c'est-à-dire dans la tête de celui qui a la maladie d'Alzheimer, et donc en lui attribuant tout un tas de paroles qui ne possède plus au sens strict. Et donc mon travail, moi, c'était vraiment plutôt de faire une chose un peu impossible, qui était de donner de la parole, à ceux qui ne l'ont pas parce qu'ils n'ont plus les mots. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas du tout dans la même perspective, et que c'était intéressant de voir comment, suivant le médium qu'on emploie, on va travailler sur le point de vue, et comment, à quel endroit on va se mettre. Et enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est vrai pour les malades d'Alzheimer, mais c'est vrai pour plein d'autres. Enfin, pour dès qu'on filme quelqu'un, ou c'est à quel endroit on se met à quelle distance. Et donc là, je trouvais. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était que, par exemple, j'étais soulagée, je dois dire, quand le monsieur s'est mis à parler, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, ah oui. Et que vraiment, il y a un manque. Enfin, alors là, c'est peut-être moi, c'est peut-être un peu aussi dans la parole, etc. Mais c'est. Et donc, le livre que j'ai écrit, c'est aussi pour me soulager de ça, c'est-à-dire que ça parle beaucoup, en fait. Et voilà.
Merci d'avoir donné votre avis et ce que vous avez senti en voyant ce film. Moi, je ne l'avais pas revu depuis un an, donc ça m'a oppressée. Bon, la qualité de l'image que vous avez vue, là, n'est pas très bonne. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est très près. On est dans l'image, on est dans le grain de l'image, on est dans le grain de la peau, on est dans tous les plis du visage. Ce sont des cartes, pratiquement, ces visages. Les yeux ont été des choses que j'ai beaucoup filmées parce que c'était absolument inaccessible. C'est-à-dire, c'est la seule chose, la seule partie à laquelle je n'ai pas pu avoir accès, évidemment, puisque on a tous un mystère ou une chose cristallisée où on ne peut pas, qui est incassable, inapprochable. Donc, je me suis approchée très près, mais je n'ai pas pu aller au-delà de ça. Enfin, j'ai pas touché un noyau. Je suis quand même restée à quelque chose de. Il y a une espèce de protection que tout le monde a, qui est où on peut pas aller. Voilà. Donc ça, je me suis approchée jusqu'à ce point-là. Voilà. C'est ça que je peux dire. Et c'est peut-être ça qui est montré ici dans ce film. Et puis aussi les perturbations de chacun, de chacune des personnes à différentes vitesses. C'est-à-dire, le son, par exemple, est un son interne. Vous parliez de... vous vous êtes mis à l'intérieur pour donner les mots. Là, le son est souvent c'est souvent un son interne au corps, interne, bruit interne des oreilles, interne du ventre, peut-être, parfois le cœur, parfois un flux, comme un flux sanguin, avec... Et ça c'est une chose. Et puis après il y a le flux de la parole, le flux des mots qui sort ou qui ne sort pas, qui a un sens ou qui n'en a pas. Donc c'est une autre altération. Et puis ensuite il y a le mouvement. Donc on a vu des mouvements qui sont parfois répétés, parfois scandés, dissociés aussi. Et j'ai pareil, moi aussi été très soulagée d'entendre parler Marc à la fin, parce que je me suis dit. Oh, enfin, on va respirer un peu d'air. Il parle de la mer, il parle du bateau. On voit le ciel, pas très bien d'ailleurs, toujours sur l'image. Mais et c'est vrai que c'est un peu comme une délivrance. Ça apparaît comme une délivrance. Je trouve qu'on est soumis à la torture avec ce film. Moi, je l'ai ressenti là très très fort, comme quelque chose de très dur et en même temps de très humain et de très réel. C'est quand on va dans ces endroits-là, dans ces hôpitaux, dans ces lieux qui sont quand même des lieux d'exclusion où on met à l'écart cette population, on est... peut-être aussi que là, j'ai montré dans le film ce qui nous assaille quand on rentre dans ces endroits-là. C'est-à-dire la moiteur, l'humidité, les odeurs nauséabondes, les cris, les sanglots, et parfois rien, c'est-à-dire juste du silence. C'est rien, rien. C'est la mort aussi, et là, à deux pas, tout le temps. Les corps affalés, les corps couchés, les corps renversés, les narines qui s'ouvrent, la bouche ouverte, on ne sait pas s'ils dorment ou s'ils sont déjà morts. Enfin, parfois, c'est vraiment extrêmement troublant. Et ce qui est très troublant aussi, c'est d'arriver dans des lieux où le lieu même de la perte de la mémoire. Donc, on est là et on perd la mémoire aussi. C'est-à-dire, on a peur déjà. Oui, on a peur de perdre la mémoire. On ne se retrouve pas dans l'espace où on est puisque... Ces hôpitaux sont parfois très mal, tous les couloirs se ressemblent, les chambres sont identiques, ce sont des lieux dépersonnalisés et on ne s'y retrouve pas. Voilà. Et tout ce film en fait quand même le montre par le fait d'être très près, par les sons et par le malaise qu'on peut éprouver en voyant les images.
Alors, je voudrais revenir sur le mot de distance, sur le mot aussi de point de vue, parce que c'est la deuxième fois que je vois le film en salle, et c'est vrai que le sentiment d'oppression, et qui tient en particulier au fait que le plan ou le point de vue est extrêmement rapproché, quelque chose qui m'a peut-être davantage frappé cette fois-ci que les fois précédentes. Néanmoins, il y a quelque chose que je trouve cette fois-ci encore extrêmement surprenant ou paradoxal, et qui tient peut-être à quelque chose qui est un petit peu impalpable dans l'image, pour reprendre l'expression, je crois, très juste que vous avez eue, qui tient aussi à la nature de l'image numérique. Il y a très souvent des moments où la caméra balaye une image ou un visage, et on voit les pixels comme ça qui ont l'air de sauter un petit peu dans tous les sens avant de se recomposer sur l'image bien définie. Et c'est toujours quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné, c'est-à-dire qu'il y a là, dans le travail de la vidéo, quelque chose qui fait que l'image prend une épaisseur, une épaisseur qui vient contredire quelque chose qui est une définition de la photographie, en tout cas une définition que André Bazin donnait de la photographie, et qui est le caractère ontologique de l'image photographique, à savoir que l'image, au fond, doit disparaître ou disparaît devant ce qu'elle montre. Hein, l'image est transparente d'une certaine manière, ça on pourra en parler. Parce que tendance floue, quand même, ça en dit long hein, sur ça. Et je trouve que par rapport à la question de la distance, le fait que l'image ne se fasse pas oublier, que l'image est une matière, une matérialité, et qu'effectivement, la matérialité de cette image se confond aussi avec tous les accidents, toutes les rides, toutes les aspérités de la peau des personnages qui sont ou des personnes qui sont filmées, crée à la fois dans cette très grande proximité, dans ces plans très rapprochés, une distance, une légère distance, et qui moi me permet, comme simple spectateur, je pense, d'approcher la vérité de ces personnes. Et de, comment dire ça, c'est à la fois la vérité de ce qui les affecte, et rien n'est caché, rien n'est oublié. Il y a ces gestes répétitifs, compulsifs, etc. Et en même temps, la distance fait que je les vois apparaître dans toute leur dignité. Quoi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une des choses que je trouve très magnifique dans le film de Pascal. Je pourrais le dire d'une manière beaucoup plus simple, au fond. C'est que, alors que la caméra est effectivement constamment collée aux personnages, aux personnes, on n'a jamais, à aucun moment, l'impression d'une impudeur. Voilà. Et ça, je trouve que c'est... et c'est difficile à expliquer, mais c'est pour moi quelque chose qui fonctionne comme ça, quoi.
Je trouve, moi, ce qui est intéressant, j'écoute, je réfléchis, c'est qu'il y a une énigme. On ne sait pas très bien ce qu'on cherche à comprendre ou à apprivoiser ou à approcher, que ce soit avec le travail de l'image ou que ce soit avec le travail de l'écriture. Moi, je suis plus proche dans la forme de ce que disait Olivia, c'est-à-dire... Olivia, c'est ça ? Olivia, ouais. C'est-à-dire, c'est une pièce de théâtre, c'est un récit, ça s'appelle Parole d'Alzheimer, et je passe d'un personnage à l'autre, et je parle, et donc je joue le malade, donc je me suis permis d'inventer que le malade aurait un discours intérieur et qu'il serait encore capable de le proférer, ou ensuite que je joue qu'il le profère. C'est une fiction, il y a une distance qui est encore accentuée par la mise en scène, par le fait que je sors du jeu pour aller chanter. Voilà. Comme si par la distance on pouvait essayer d'approcher plus, voilà. Et par exemple, je n'ai jamais envisagé que mon texte soit joué par des personnages qui auraient l'âge des rôles, parce que je trouve que en live sur le plateau, deux personnes de 65 ans ou 70 ans essayant de représenter la réalité de ça au sens propre, d'abord ce serait insoutenable, ce serait pour le coup absolument impudique, et ça n'atteindrait jamais la réalité du réel des gens qui le vivent pour de vrai, voilà. Et il y a dans le travail de Pascal un choix d'une distance, effectivement, qui en l'occurrence est l'autre distance, c'est le rapprochement, voilà, et qui tout d'un coup fait qu'il y a comme une forme de fiction aussi, parce que c'est vrai que c'est un point de vue, et que c'est vrai que ce n'est pas le regard qu'on porte sur des gens malades d'Alzheimer si on rentre dans une maison de retraite et qu'on les croise, quoi, voilà. Et du coup, voilà, il y a aussi une distance. Mais j'ai aussi eu ce sentiment, moi, d'oppression et de malaise, à attendre de comprendre. C'est très bouleversant, par exemple, la photo d'elle dans le passé. Tout à coup, on a l'impression de savoir un peu, de rencontrer un peu cette femme, quoi. J'attendais le moment d'aller voir si c'était son chéri qui était à côté d'elle, elle tient le bras de quelqu'un. Enfin, je sais pas, tout de suite, c'est des humains qui sont attachants et qui ont, de toute manière, je crois que les gens très, très, très vieux qui ont comme ça une espèce de parchemin mystérieux sur le visage, de toute manière, ça provoque ça, l'envie de. C'est des bibliothèques, quoi, donc envie de connaître, de savoir qui ils ont été, tout ça. Et quand il y a cette absence-là dans le regard, en plus, et qu'on sait bien qu'il y a, une absence, il y a une chose. Un mode de communication par les mots qui est difficile, il y a encore un plus grand besoin d'essayer de rencontrer, quoi. Et c'est difficile, c'est une quête. Et le mystère reste là. Je ne sais pas si vous avez cette impression aussi, mais moi j'ai l'impression d'une énigme, quoi, une chose un peu frustrante aussi.
Comment avez-vous composé le texte ? Parce que je peux comprendre que vous étiez. Que ça, la constitution du texte. Avait été précédé par un long travail d'enquête ou quelque chose comme ça.
Alors, c'est, honnêtement, pas du tout, en fait. Il se trouve qu'une fois, un journaliste a écrit ça dans un article et que c'est repris régulièrement, mais c'est pas ça l'histoire, voilà. En fait, l'histoire, vraiment, c'est une commande de la mairie de Saint-Quentin-en-Yvelines il y a très longtemps, c'était en 2000. Ils m'ont proposé ça parce qu'ils connaissaient mon travail de comédienne, voilà, et vu les trucs que je faisais. Ensuite, j'avais moi une grand-mère paternelle qui a eu un trouble à parenté. Donc, ma famille avait vécu plein de choses à travers ça. Voilà. Donc, j'avais vécu plein de choses que j'avais envie de raconter un peu. Je me suis un peu documentée, mais pas beaucoup. C'est vraiment une fiction, quoi. Enfin, voilà. Sur des choses que j'avais vues dans ma famille, j'ai inventé l'histoire d'un couple dont le monsieur est atteint de ça, voilà. Et j'ai fait une première version que j'ai tournée jusqu'en 2005. Et puis en 2005, j'ai eu envie de faire le Festival d'Avignon Off avec ça. Donc je l'ai retravaillé parce que c'était un peu information médicale quand même. Donc je l'ai retravaillé plus théâtre. Et là, pour le coup, oui, il y a eu, non pas des enquêtes, mais des rencontres humaines. Les spectacles, quand je les avais joués, il y avait toujours des rencontres un peu comme ça à la fin, avec des gens du public, qui m'ont raconté des anecdotes. Voilà. Donc c'est là qu'il y a une histoire d'enquête. Mais ce n'est pas que je suis allée enquêter, leur poser des questions, c'est qu'ils m'ont raconté, voilà, mon père avait ça, il disait ça, tout ça. Et du coup, ensuite, quand j'ai retravaillé le texte pour Avignon, j'ai rajouté quelques anecdotes. Donc il y a effectivement du vécu d'enquête, mais c'est plus que. C'est plus des témoignages qui sont venus un peu naturellement comme ça. Je n'ai pas fait la démarche d'aller à la rencontre de gens dans des lieux, tout ça. Ça s'est construit un peu au fur et à mesure des échanges après les représentations, en fait.
Oui. Non, j'étais en train de songer, au fond, à ce que j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir une similitude entre ce travail d'écriture et celui d'Olivia Rosenthal, mais je crois que je m'étais vraiment complètement trompé, en fait. C'est complètement différent. Mais par contre, sur le mot d'ignorance, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, vos démarches, et là je pense que c'est vrai pour vous quatre, c'est une approche de quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le récit d'Olivia Rosenthal, parce que l'ignorance y joue un très grand rôle. Et j'ai trouvé, si je veux rester fidèle au fond au programme que j'ai voulu donner à cette table ronde, je pensais que la forme du roman chez vous était vraiment complètement à l'opposé de ce que ça pouvait être chez Balzac. C'est-à-dire qu'on est absolument aux antipodes du romancier tout puissant et omniscient. Et que c'est au contraire un romancier qui est d'abord une romancière qui est comme tout le monde et qui s'avance vers quelque chose qu'elle veut connaître par le biais de mots, de phrases que, au fond, presque tout le monde pourrait prononcer. Je passe simplement sur les moments où le savoir médical est convoqué par le biais d'encyclopédies ou d'articles. Et donc il y a comme une pluralité de voix. C'est un récit qui est un peu
comment dire, sinon anonyme, mais du moins la question du nom est extrêmement importante. Et en même temps, ces voix, elles semblent effectivement... là, je m'exprime mal. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est que la plupart des voix de ce livre sont des voix quelconques, c'est-à-dire ça peut être n'importe qui. Et qu'il y a un moment où le travail d'approche de sa propre ignorance ou pour lutter contre sa propre ignorance est en même temps quelque chose qui se rapproche de ce que c'est qu'oublier dans des conditions pathologiques et que la reconstitution du discours d'Alzheimer est comme une espèce de lente victoire que le livre obtient, quoi, enfin...
Oui, parce que c'est vrai que le point de départ, c'est aussi ce que vous dites, c'est-à-dire c'est cette énigme d'être face à quelqu'un dont on ne sait pas très bien ce qu'il pense, s'il pense, s'il y a des mots à l'intérieur. Voilà, donc à partir de là, c'est vrai que, au départ, moi, je voulais écrire une biographie, une espèce de biographie un peu fictive du docteur Alzheimer. C'était ça mon projet. Et en fait, j'avais envie d'écrire un livre comique sur le personnage d'Alzheimer. C'était ça le...
Il en reste d'ailleurs.
Il en reste un peu des petites choses, mais voilà. Et donc j'avais écrit beaucoup de choses sur ce docteur Alzheimer. Et puis je me suis rendu compte que sa vie n'était pas extrêmement intéressante ou qu'il n'y avait pas... Voilà, je ne pouvais pas sortir grand-chose. Donc... Et je me suis rendu compte que c'était aussi une fausse piste, une manière de répondre à votre question, parce que du coup, voilà, c'est une des voies de ce récit, c'est la voie biographique avec les passages obligés de la biographie, la naissance, les études, etc., etc., le mariage. Et en fait, en travaillant sur cette vie du docteur Alzheimer, je me suis rendu compte que finalement, si on devait raconter la vie de n'importe qui, comment on ferait ? On a des passages obligés, on passe toujours par les mêmes étapes. Et donc, ça m'a intéressé de réfléchir à ça à partir de personnes dont la vie est pleine de trous, puisque eux ne sont plus capables de la raconter, et que s'ils n'ont pas de proches qui remplissent les trous, alors comment on fait ? Et donc, c'était en mettant en regard ces deux choses, c'est-à-dire la vie de quelqu'un dont il existe des biographies bien connues, et puis la vie de quelqu'un dont il n'existe pas de biographie et dont on ne connaît pas vraiment la vie, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à raconter sur les vies de, et comme vous dites, les vies de Monsieur T, qui est le personnage principal, si on peut dire, du récit, mais la vie d'Olivia Rosenthal et, la vie de n'importe qui, finalement. Qu'est-ce qu'on raconterait si on devait extraire des morceaux de toutes ces vies ? Et en fait, je me suis rendu compte que on extrait des choses, et donc en fait, la vie, c'est une série de trous, parce que comme on peut pas raconter la vie, en fait, sinon il faudrait, ça serait, on pourrait jamais s'arrêter, il faudrait commencer, on pourrait pas. Donc, on est obligé de ne pas raconter en fait la vie. Donc, c'est une série de trous, et donc ça va avec cette idée de trou de mémoire. Et donc, je suis partie sur ce terrain un peu mouvant, on va dire. Et c'est vrai que, c'est comme ça que cette pluralité des voix m'est apparue comme absolument nécessaire, aussi parce que j'avais le sentiment que pour parler de, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, mais pour parler de la maladie en général, je pense qu'il fallait avoir tous les points de vue à la fois. Donc c'est là qu'on peut-être on retrouve le point de vue omniscient. Il fallait avoir tous les points de vue à la fois, mais qu'aucun n'était le bon. Donc, il y a le point de vue du médecin, il y a le point de vue de la femme, il y a le point de vue du malade, il y a le point de vue de celui qui vient de temps en temps, il y a le point de vue de... etc. Et en fait, ça éparpille complètement les choses, et finalement, c'est la dissémination qui peut-être produire quelque chose qui ressemblerait à une approche possible de ce que c'est. Mais que si on adopte un seul point de vue, on va forcément être dans l'erreur, parce que justement, on n'aura pas toutes les autres facettes possibles. Et c'est vrai que là, alors moi pour le coup, c'est vrai que pour faire ce travail, je suis vraiment partie d'une enquête assez de terrain, en fait, en allant à la fois voir dans les maisons de retraite, dans les accueils de jour, dans les consultations médicales. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de monde, et aussi j'ai lu beaucoup les ouvrages scientifiques que je n'ai pas spécialement compris, mais ça m'a beaucoup intéressé aussi le vocabulaire scientifique et la manière dont le discours scientifique est aussi comme voilà, est à la fois un outil de connaissance et un moyen de ne pas voir. Et donc, j'ai joué là-dessus, c'est-à-dire comment ce discours médical permet aussi de se protéger de tout un tas de choses. Et donc, voilà. Donc, c'est aussi un travail sur la langue et sur ce qu'on peut raconter de sa propre vie, qu'on ait ou non des trous de mémoire. Parce que finalement, on a tous des trous de mémoire, puisque finalement, notre mémoire est essentiellement constituée de trous. Bon, évidemment, si on a Alzheimer, on en a un peu plus peut-être, ou ils ne sont pas au même endroit, etc. Mais cette projection que j'ai faite sur les malades d'Alzheimer, c'est juste, ça renvoie en fait à quelque chose qui parle de notre condition humaine, quoi. Et c'était ça qui m'intéressait, en fait. C'est cette place de l'oubli dans la manière dont on vit et dont on avance. Et les malades d'Alzheimer, pour moi, étaient ceux qui vivent avec ça, peut-être de manière la plus évidente, pour nous, mais comme on est tous soumis à ce régime, quoi.
Mais ça, on le comprend très bien, ou on le perçoit très bien quand on avance dans le livre, c'est-à-dire que et de même, si je dis que chacun d'entre vous a voulu chercher ou explorer quelque chose, c'est naturellement pas que la maladie d'Alzheimer est un objet unique, singulier, etc. Ce qu'il est aussi, mais qu'à travers cet objet-là, à travers ces personnes-là. En général, vous parlez de bien autre chose, vous montrez bien autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui est... d'abord, c'est vrai que l'omniscience du romancier, ça ne peut pas être la pluralité des voix, ça c'est évident. Mais il me semble quand même que le récit ne se contente pas de dire ou de montrer qu'il y a des trous de mémoire, des trous dans la vie, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne aussi d'une manière qui est comme une combinatoire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le sentiment par moments que des choses très importantes du livre étaient dites non pas dans le livre, mais plutôt dans ses interstices ou dans ses intervalles, dans des choses qui n'étaient pas écrites. Et je pense que c'est vrai que l'histoire d'Alzheimer, c'est extrêmement intéressant, et on sent d'ailleurs que ça aurait pu être effectivement un livre plutôt drôle, je pense d'une drôlerie mesurée, mais parce que c'est toute l'histoire du nom, quoi. Enfin, il y a cette question, la maladie qui se nomme d'abord dans le livre la maladie de A, et donc devient la maladie d'Alzheimer au fur et à mesure que le nom, enfin, que le récit de la façon dont le nom d'Alzheimer a été donné à cette maladie avance, quoi.
Oui, parce que ça aussi, c'était l'enquête, en fait, ça portait sur les noms que portent les maladies, qui parfois sont des noms de médecins, et donc ça m'intéressait beaucoup de savoir jusqu'à quel point les médecins étaient... adhéraient à cette idée qu'ils allaient donner leur nom à des maladies absolument épouvantables. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée d'abord à Alzheimer, mais en fait, voilà, c'est-à-dire voilà, comment on donne à une maladie le nom de quelqu'un, et comment du coup ce monsieur se retrouve lui-même à donner le nom, à son nom, non seulement à des malades, mais aussi quand même à ses enfants. Et donc tout ça est un peu... Enfin, c'est vraiment aussi ce qui m'intéressait, et ça va aussi avec l'idée de la mémoire, c'est effectivement de savoir, ben voilà, d'où vient notre nom, et puis aussi à qui on donne notre nom. Donc c'est aussi un récit sur la transmission et sur ce qu'on peut transmettre et ce qu'on peut ne pas transmettre, ou ce qu'on n'arrive pas à transmettre. Et évidemment, quand dans une famille, il y a quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, ça fait un bloc qui rend la transmission un peu compliquée, parce que justement, ça modifie complètement... les arbres de la famille, et donc et c'est ça aussi que ça raconte, c'est comment ça fait écran, et comment du coup ça modifie toutes les relations qu'il y a dans les différentes générations. Et ça aussi, c'était une chose qui m'intéressait. Et du coup, c'est vrai que Alzheimer, pour moi, c'est aussi, enfin, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais au fond, c'est une maladie quelconque, au sens où ça nous renvoie à tout un tas de questions qui, qui, qui ne sont pas des questions simplement sur la maladie, mais qui sont vraiment des questions sur la famille, sur la généalogie, sur la mémoire, sur l'oubli, etc.
Sur la disparition.
Sur la disparition, évidemment. Et effectivement, du coup, finalement, ce livre se met à raconter quelque chose que je ne pensais pas qu'il allait raconter quand j'ai commencé le livre, mais c'est aussi à ça, peut-être, que servent les livres. Enfin, découvrir qu'on va raconter quelque chose qu'on n'avait pas pensé qu'on raconterait et que du coup l'enquête sur la maladie d'Alzheimer, ben, c'est aussi une enquête que je mène moi-même et que du coup je me rends compte à mesure, puisque le livre suit l'enquête que j'ai faite, et voilà, je me rends compte à mesure que ce dont il est question n'est pas ce que je croyais trouver au départ, et que c'est un livre à suspense, mais c'est un tout petit suspense.
Oui, n'empêche que le moment où on lit vers le deuxième tiers du livre, je m'appelle Olivia Rosenthal, je suis née à Paris dans le 10e arrondissement, c'est un moment extrêmement bouleversant. Enfin, on se dit que le nom là est très menacé d'une certaine façon.
C'est aussi parce que le malade en question qui a existé, etc., lui, il ne pouvait pas dire « je m'appelle et je suis née le... » Donc moi, je peux le dire encore, donc j'en profite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, lui, par exemple, c'était typiquement une chose... C'est pour ça, quand on voit le film, c'était typiquement une chose qu'il ne pouvait pas dire. Donc, y a aussi le fait de pouvoir encore le dire, effectivement, comme quelque chose... on est un peu sur la brèche, on va pouvoir le dire, et puis combien de temps on va pouvoir le dire, et puis à quoi ça sert de le dire, et puis c'est à la fois une manière de se rassurer, et puis c'est une manière de s'inquiéter aussi, parce que... ça raconte que l'identité n'est pas une identité définitive et qu'il faut toujours se la répéter à soi-même et se rappeler à soi-même que « ah oui, c'est vrai, je m'appelle Olivia Rosenthal ». Et de dire ça enclenche tout un tas d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé, parce que ça nous paraît évident de nous appeler comme ci ou comme ça, mais qu'en fait, en disant ce nom-là, alors, brusquement, apparaissent d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé, et on est obligé, si on va vraiment au bout de ce qu'on avait prévu, de tirer tout ce fil-là et d'essayer d'aller au bout de ce que ça veut dire de s'appeler comme ci, et d'avoir tel âge, et d'être né à tel endroit, et toutes les conséquences que ça peut avoir sur la suite, quoi.
Moi, j'ai été très sensible aux répétitions dans le livre, c'est-à-dire que toutes les voix s'arrêtent, et puis quand elles reprennent toujours, pas tout à fait au même endroit, mais presque, avec pratiquement les mêmes mots, et puis elles redéfinissent ou font redéfiler un peu plus loin que la précédente voix, donc une nouvelle chose qui est quand même une répétition, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui reste une répétition, et petit à petit, on se rend compte parfois que dans certains paragraphes, une répétition en entier va donner une cohérence. Et ça, j'ai trouvé ça absolument remarquable, parce que on est tous, enfin, je ne sais pas si on est tous, mais en tout cas, la répétition est quelque chose que l'on vit tous, tous les jours, une espèce de quotidien qui revient ou autre chose, enfin, des répétitions de situations ou de circonstances. Et là, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que on pouvait... presque comprendre qu'une répétition en elle-même, si on la suivait du début jusqu'à la fin, finalement, elle avait un sens. Et c'est incroyable. Enfin, je veux dire,
en fait,
c'est très beau.
C'est ça, très parce beau. Que, oui, non, mais parce que moi, enfin, cette idée que, en fait, ça n'existe pas vraiment la répétition.
Oui,
c'est-à-dire que si je dis, je dis, je dis. La deuxième fois, comme c'est la deuxième fois justement, c'est pas exactement la première puisque vous l'avez déjà entendu une fois. Et donc, en fait, toute répétition est déjà une variation parce que on a accumulé, du moins si on a la mémoire, ce qui a précédé. Et du coup, et ça, j'y pense vraiment aussi par rapport à votre film et par rapport au fait que souvent les malades d'Alzheimer répètent la même chose, etc. Et non, mais n'ont pas la conscience de répéter. Et donc la répétition, si on la mène au bout, c'est aussi un principe vital, quoi. C'est-à-dire que c'est par ça qu'on va avancer. Et donc le livre est fait comme ça. C'est-à-dire que
c'est magnifique, ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé absolument magnifique dans le livre.
merci. Non, vraiment, c'est...
Je sais qu'une des choses qui m'a touchée, c'est la façon dont, dans la fiction... Enfin, d'abord, il y a les questions qui viennent tout de suite, les questions qui semblent être des questions de psychiatre. Voilà, donc, comment vous appelez-vous, etc. Et où les réponses sont toujours, mais totalement désaxées ou insensées par rapport à la question. Et où l'espèce de monologue intérieur de Monsieur T., dont on n'est d'ailleurs pas tout à fait... Enfin, le récit n'assure pas complètement que c'est le monologue intérieur de Monsieur T., devient de plus en plus signifiant. Enfin, on comprend de plus en plus ce qu'il veut dire, et précisément grâce à la répétition. Enfin, en particulier, tout ce qui est dit au début sur les blessures que les femmes ouvrent, sur les arbres et les enfants, les bateaux et l'Amérique, etc. Et voilà, c'est un peu aussi ce que je voulais dire en disant que quelquefois ce qui n'était pas dit était important, et que souvent la fiction naît dans les interstices des paragraphes, quoi. Enfin.
Puis c'est vrai que j'ai inventé donc toute une histoire de ce monsieur T qui dit des choses un petit peu insensées, on comprend pas, etc., exactement de quoi il est en train de parler. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup écouté ce qui se passait dans les maisons. Et les accueils de jour, et j'ai rencontré beaucoup de malades qui, quand je leur posais des questions, me répondaient des choses extrêmement, extrêmement étranges. Et il n'y a pas une phrase que j'ai reprise de tout ce que j'ai entendu, mais enfin, cette idée de l'endroit où ça dévie complètement, et où le malade parle d'une chose dont il est à peu près sûr qu'on comprend ce que c'est, mais nous, on ne voit pas du tout. Alors, j'ai trouvé ça vraiment des moments de... Enfin, on est complètement démunis, et en même temps, alors il faut y. Enfin, c'est-à-dire que là l'idée que je m'étais fixée au bout d'un moment, c'est bon, bah voilà, j'y vais, quoi. Je vais avec lui, je sais pas où. Donc il me parle de, je sais pas, je lui dis comment vous appelez-vous, il me répond, l'armoire est très très grande et je sais pas quoi. Enfin, et donc oui, alors l'armoire, ah bon. Et en fait, il finit par si on accepte, parce que bon, je dois avouer que j'ai fait ça avec des gens que je connaissais mal, donc c'est plus facile, parce que évidemment, si on fait ça avec un proche, ça devient c'est très douloureux. Mais avec des gens un peu plus lointains, ça devient possible. Et à un moment, il y a quelque chose que soi-même on doit lâcher de ce qu'on a l'habitude de construire comme sens, etc. Et à cette condition, peut-être. Hein, on dialogue, mais sur un mode un peu... Enfin, c'est vrai. On dialogue, mais on ne sait pas très bien de quoi on parle, ni l'un ni l'autre. Simplement, c'est comme... Ça a une fonction fatigue, quoi. C'est-à-dire que... Et ça, je trouvais ça vraiment important de donner de la place à cette... À ces déviations permanentes. Et alors, l'avantage du livre, évidemment, sur la vie, c'est qu'après, on peut travailler ces déviations de sorte qu'elles mènent quelque part, et de sorte que ça finit, à force de se répéter, etc., ça finit par signifier quelque chose. Parce que voilà, c'est aussi l'avantage de la fiction par rapport... c'est-à-dire qu'on peut... Voilà, notre boulot, c'est aussi de donner du sens. Donc, c'est ce qu'on fait avec ce... Alors que parfois, quand on va dans les maisons, on sort et on n'a pas eu le sentiment d'avoir donné du sens ou d'avoir... c'est pas tout à fait la même chose. Donc... Mais c'était important, cette idée à la fois de l'écart dans la parole que l'on a, nous, et l'idée que l'on a de ce que doit être la parole, et ce que l'autre a comme type de parole, l'écart, et comment on arrive à créer vraiment ce qu'on peut appeler une relation au sens strict.
Oui, je trouve qu'il y a plusieurs choses que nous apprend la maladie d'Alzheimer et la relation avec quelqu'un qui a atteint ça. Le lâcher prise, ça c'est extrêmement riche d'enseignement. Il y a un côté, vous disiez tout à l'heure,
ça c'était un mot du livre,
que ça faisait du bien de dire je m'appelle Léa Rosenthal et je suis née, tel, tel. Absolument, et ça fait du bien de savoir qu'on peut encore le faire. Mais tout d'un coup, on est aussi dans une situation quand on est en contact avec quelqu'un qui a atteint de ça ou d'un trouble apparenté. Et qu'est-ce qui se passe si ça n'est plus possible? Et qu'à l'inverse de ce que vous disiez, en l'occurrence, moi, c'est vraiment de ma relation à ma grand-mère que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'était une proche, et évidemment que c'était douloureux aussi, bien sûr. Mais c'était aussi parce que c'était une proche qui avait assez d'amour, énormément d'amour entre nous, et que donc, j'ai eu envie de la suivre et d'apprendre d'elle pour qu'on puisse continuer à rester en contact, quoi. Voilà. C'est-à-dire aussi que... le lâcher prise, le fait de rentrer un peu dans son univers, le fait de trouver que c'était finalement par la chanson qu'il y avait hop contact entre nous. C'est pour ça aussi que j'ai mis des chansons dans mon spectacle. C'est, alors, ça n'est pas du tout premier degré, parce que c'est pas les chansons que je chantais avec elle, mais j'avais envie qu'il y ait de la musique aussi pour ça, pour, comme un clin d'œil à cette chose-là, où à un moment, elle m'a plus reconnue, mais quand je chantais les chansons qu'elle me chantait, c'était de la joie que je vienne, c'était de la joie qu'on soit ensemble là, et voilà, et se toucher, tout ça, tous les modes de communication. Et parmi toutes les choses que ça apprend aussi de traverser ça, je trouve qu'il y a, c'est aussi une parabole du rapport à l'étranger ou à la différence. C'est-à-dire qu'il y a là quelqu'un qui devient un autre, vraiment profondément différent dans sa perception du réel, dans sa manière de communiquer les choses, dans la rencontre possible ou pas, dans l'absence de regard parfois, qui pour le coup est très déstabilisante, quoi. Mais il y a un postulat de base qui est que c'est quelqu'un qu'on aime et auquel on tient. Et donc, on fait l'effort d'aller vers, quoi. Et on apprend énormément. Et c'est très enrichissant de ça aussi, de cette espèce de chose où il vaut mieux lâcher prise, quoi. Il vaut mieux essayer de suivre. Puis il n'y aura peut-être pas de logique, mais ça se passe ailleurs.
C'est quoi, lâcher prise ?
Alors,
c'est vrai, lâcher prise, on peut en dire
ça rejoint, ouais, ça rejoint ce que j'essayais de nommer en parlant de l'impalpable tout à l'heure. Puis je ne sais pas si c'est vraiment de l'impalpable. Je sais pas ce exactement. C'est le truc qui est qu'il y a quelque chose qui circule. C'est des images, c'est des sensations. C'est qu'est-ce qui fait que sur les je ne sais pas combien d'heures de rush que vous avez pris, il y a telle ou telle image qui tout à coup a été celle que vous avez envie de garder. Parce que là, voilà, il y a une rencontre ou une émotion ou quelque chose. Et c'est pas, là, ça peut plus être par les mots, et c'est une chose. Ensuite, si on part de cette rencontre, et donc précisément on n'y reste pas, mais qu'on garde cette chose-là en soi, il y a d'autres endroits de la vie où ça peut être, je crois, un peu utile de, je sais pas, de
parce
de
que
faire
lâcher,
le bouchon.
Lâcher
quoi.
Prise, c'est aussi plusieurs mondes différents. Enfin, on rentre, chacun peut rentrer dans, par plusieurs voies, dans plusieurs mondes différents. Et avancer. Et enfin, lâcher prise, ça ouvre des portes un peu. Je ne sais pas comment dire ça. Je sais pas, vous en avez parlé dans votre livre.
Oui, je parle, je lâche prise à plusieurs reprises dans le. Oui. Mais quand je dis je lâche prise, il y a d'abord. Enfin, moi, je vois. Enfin, voilà, ce que je raconte, c'est comment un mal. Sorte d'interprétation. Hein. Comment c'est pratique, en fait, d'avoir la maladie d'Alzheimer. Oui. C'est pour oublier, pour... ça y est, je lâche. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là, c'est-à-dire comme une sorte de libération de tout. J'ai la maladie d'Alzheimer, donc je lâche tout, j'oublie tout, je ne sais plus qui sont mes enfants, mes parents, mes ceci, mes cela. Je me fais border, on me lave, on me fait manger. Enfin, il y a un côté... Enfin, si on va au bout de ça, ça peut. Il y a une sorte de. Je me dis de jouissance, de.
Renoncement à soi, quoi.
Voilà, donc il y a ça qui est quand même. Et qui est un peu révoltant pour les autres, évidemment. Mais il y a cette espèce de chose-là. Et puis, oui, ça raconte. Enfin, dans le livre, ça parle de ça parce que lâcher prise, ça peut avoir plein de sens. Ça peut. Voilà, c'est
oui, le mot est ambigu parce qu'au fond, on ne sait pas si ça veut dire. Laisser tomber, tout
oui,
laisser,
soi,
tout abandonner,
oui.
Ou si ça veut dire, effectivement, on a l'impression que ça peut être, c'est fini, quoi. On est dans le,
oui, ça,
on part dans les nuages.
On ne sait pas ce que ça veut dire, lâcher prise. Est-ce que c'est, j'accède à quelque chose, ou alors est-ce que c'est au contraire, c'est le suicide, quoi, aussi.
Mais ça, donc, ça peut être que je me laisse transporter par.
Je suis moins optimiste que vous, mais enfin, mais.
Et non, on va d'abord s'intéresser à la photographie. Et
je voulais juste ajouter quelque chose sur le lâcher prise. En fait, il y a deux trucs sur cette histoire de la maladie d'Alzheimer ou de la démence en général, sénile en particulier, parce que c'est quand même le sujet de ce soir. Alzheimer, c'est juste une partie qui est la maladie la plus reconnue aujourd'hui, mais il y a tout un tas d'autres démences séniles. Non, sur le lâcher prise, c'est évident que ces gens qui sont atteints de cette maladie, ils lâchent tout, quoi, ils ont tout lâché. Voilà, et principalement, je pense, sur leur image, la manière dont ils voient leur image dans le miroir, Et je pense qu'on dit, il y a une expression qui dit ce matin j'ai pris un coup de vieux quand on se voit la première fois. Pour la première fois, on peut se dire ça par rapport au canon de la société ou au paraître que l'on doit avoir dans la société. Il y a quelque chose de quand on devient vieux, c'est parce que on renonce à on se distancie des canons de la société. Il y a quelque chose comme ça par rapport à sa propre image. Et puis aussi il y avait le lâcher prise de nous quand on doit aborder ce sujet-là, où il faut qu'on se mette au niveau des gens si on veut comprendre ce qui se passe dans leur, enfin tenter de comprendre les contours de cette maladie qui est multiple. Si on se met pas, si nous on lâche pas prise par rapport à nos propres schémas de vie en société et notre propre histoire aussi, on va à la confrontation et puis on n'aura rien du tout, on ne pourra rien choper.
Voilà. Oui, donc il faut lâcher prise pour s'approcher. Quoi. Enfin...
Oui, parce que c'est décontenançant. Quoi. C'est, vous parliez des. Je me souviens très bien, moi, de ces gens qui répétaient inlassablement. Avec des variations aussi, mais toute la journée, la même phrase, les mêmes mots. À un moment, si on lâche pas prise, on leur dit mais taisez-vous. c'est très 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 bizarre, très très bizarre. Et ou même par rapport à leur attitude, par rapport à nous-mêmes. Moi, je sais que des fois, ils me voyaient pas. Pour entrer en contact avec eux. Parce que moi, si j'ai fait du portrait, là, comme on va voir, c'était, j'aime bien être maître du jeu quand je fais des portraits en tant que photographe. Là, j'étais pas maître du jeu. C'est eux qui menaient qui me trimbalaient, quoi. J'avais beaucoup de mal à capter leur regard.
Et est-ce qu'ils savaient même, enfin, parce que, en fait, on se pose la question quand on voit le film aussi. Ah. C'est que de temps en temps, on se demande si. Enfin, est-ce
moi, que des fois, ils me
voyaient
par
rapport pas. À la caméra, la question que je me posais, et donc c'est aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où vous leur dites, voilà ce que je vais faire, je vais vous filmer, hein, ou, parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'ils ignorent la présence de la caméra, et pourtant, j'avais vraiment une question là aussi sur le, sur le protocole que vous utilisez l'un et l'autre. Parce que c'est un instrument de torture. Enfin, quand on arrive avec cet objet, c'est.
J'ai essayé pas mal de tactiques d'approches différentes. Et je pense que. Alors, j'ai suivi beaucoup de refus. En tout cas, au moment où je posais la question, qui étaient conscients de ma présence, de ce que je leur demandais, j'ai suivi beaucoup de refus. D'autres qui m'avaient donné leur accord et le lendemain me disaient non. Ou ne me reconnaissaient pas.
Et donc ça veut dire que l'idée du lâcher prise de l'image, c'est pas tout à fait vrai non plus.
Ah non.
C'est-à-dire que s'ils disent non, ça veut dire qu'il y a quelque chose de leur image qu'ils veulent pas donner.
Je pense qu'ils disaient non plus parce que moi-même, ils ne me reconnaissaient pas comme étant le demandeur la personne ayant fait la demande quelques jours après ou ayant été présentée par les personnels soignants comme pour justifier ma présence dans les locaux de l'hôpital. Parce que j'ai. C'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous les gens qui rentrent dans l'hôpital. La famille, les personnes peuvent être considérées comme des étrangers du jour au lendemain par ces personnes atteintes de cette maladie. Donc c'est compliqué de fixer leur attention quoi, par rapport à ça. Et donc au final, j'ai aussi eu l'expérience où j'étais vraiment devant eux, faire les photos, et j'étais certain qu'ils ne me voyaient pas, ça c'est sûr. Ou ils regardaient ailleurs.
Mais donc vous leur expliquiez en fait quand même, vous leur disiez même si... Parce que moi par exemple j'avais rien, donc c'est pratique. J'avais pas de papier, j'avais rien. Donc je leur disais, voilà. En fait, quoi qu'il en soit, quelle que soit la personne, j'expliquais quand même toujours ce que je voulais faire.
Oui, bien sûr. Oui,
moi aussi. Mais l'avantage que j'avais sur vous, c'est que j'avais rien. Enfin, je veux dire... alors que là, c'est vrai, même la caméra aussi...
C'est très délicat avec
alors moi, je suis resté à une distance un peu plus grande que Raphaël. D'ailleurs, ta caméra, toi, t'étais tout près. T'étais pas très près, ouais. Moi, j'étais déjà un peu plus loin, mais c'est un dispositif quand même. Ça reste imposant. Donc, c'était pas un petit appareil, c'était un moyen format. Donc, mais je crois que ceux qui ne voulaient pas, en fait, même s'ils ne me disaient pas non, ne rentraient pas volontairement dans mon jeu, quoi.
Et y a-t-il un travail préalable avant la prise de vue elle-même, j'imagine? Et en quoi consiste-t-il? Est-ce que c'est des...
Alors là, pour le coup, non, pas du tout. Là, j'ai vraiment travaillé sur le vif, comme on dit. C'est des instantanés. Ce n'est qu'ensuite que je me suis dit comment évoquer la répétition. Donc, c'est en présentant toujours les mêmes cadrages et tout ça. Mais c'est après avoir fait les images que je me suis posé cette question-là. Ce qui m'intéressait encore une fois au début, c'était d'essayer de capter leur regard. Donc j'ai fait les choses très simplement. Il y a eu deux après-midi où il y avait un spectacle qui se passait. Je savais que la majorité des patients étaient là. Je les ai pris les uns derrière les autres comme ça. Très vite, j'ai fait 3-4 clichés maximum par personne.
Et sur ces clichés, dans le souvenir que j'ai, je les ai juste regardés très rapidement sur le. Mais ils ont effectivement un air de fête, quoi, de s'être parés.
Alors certains se sont parés, ouais. Certains se sont parés, ouais. Mais et par rapport à l'image qu'ils donnent d'eux, je sais qu'il y avait un atelier coiffure dans l'hôpital là, qui représente quelque chose de très important, où justement les soignants insiste beaucoup pour qu'ils continuent à prendre soin d'eux, quoi, de leur image, de leur visage, et à l'occasion de petits rassemblements, de rassemblements comme ça. Ils étaient tous passés, ceux qui avaient accepté, chez le coiffeur ou chez la maquilleuse. Alors on peut peut-être regarder, oui, les images. Je sais que tout à l'heure, il fallait que je donne un signal.